Aujourd'hui, un rapport commun, je pense, avec plusieurs agences de l'ONU, le secrétaire général, mais bien sûr l'OMS, sur l'impact du Covid-19. Donc, on comprend que la Covid-19, bien sûr, a un impact sur la santé physique, mais elle a aussi, elle entraîne des souffrances psychologiques qui sont très importantes. Donc, peut-être pour commencer, vous pouvez peut-être nous dire quels sont les problèmes de santé mentale que la COVID-19 provoque.
On a vu ces derniers mois que le COVID-19 entraîne pas seulement des problèmes physiques, mais aussi des problèmes psychologiques. Les premiers problèmes qu'on voit, c'est l'anxiété, la dépression, le stress, les problèmes de sommeil. Et tous ces symptômes-là et ces conditions-là sont provoqués par la peur d'attraper la maladie, la peur de passer la maladie à un proche, l'inquiétude pour le présent avec beaucoup de changement de notre situation actuelle et pour l'avenir. Donc, c'est beaucoup basé dans la peur. Il y a aussi la question pour les personnes qui ont déjà une condition de maladie mentale et une éventuelle aggravation de ces symptômes.
Et quels sont justement les secteurs et les personnes qui sont les plus affectées par justement la santé, les problèmes de santé mentale?
Ben, le premier secteur que je voudrais mentionner, c'est le personnel soignant. On a tous vu ces dernières semaines la situation pour beaucoup du personnel, beaucoup de personnes dans ce secteur avec la surcharge de travail, des décisions très difficiles à prendre, des fois de vie ou de mort, des problèmes aussi, des inquiétudes, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le proche aussi, pour eux-mêmes, d'attraper la maladie et de le passer à leurs proches, la stigmatisation. Donc ça, c'est un secteur très important à affecter. Deuxièmement, les enfants et les adolescents. À travers le monde, surtout dans les pays où le confinement à domicile a été mis en place, la situation pour ces jeunes a beaucoup changé d'un coup. Il y a des écoles qui ont été fermées, ils ne peuvent plus aller voir leurs amis, ils ne peuvent plus faire leurs activités extrascolaires. Donc, il y a ce changement qui a un effet émotionnel, sur ces jeunes. Il y a aussi les adolescents qui arrivent en fin de scolarité, qui vont commencer leurs études supérieures ou commencer dans le monde du travail. Il y a beaucoup d'instabilité économique, comme on sait tous actuellement. Donc, il y a ces peurs qui s'ajoutent aux changements dans la vie habituelle. Les personnes âgées aussi, ça c'est encore un groupe affecté, surtout des personnes qui sont déjà assez seules, qui vivent seules, qui n'ont pas beaucoup de contact avec le monde extérieur. Et dernièrement, je voudrais mentionner les personnes qui ont déjà des maladies de santé mentale. La dépression, l'anxiété, sont évidemment les plus communs. Mais c'est très important que ces personnes continuent à avoir accès à leurs soins pendant cette période difficile.
Et est-ce que la stigmatisation et la discrimination ou les abus exacerbent justement les problèmes de santé mentale?
Tout à fait. La stigmatisation est quelque chose qu'on a vu depuis le début de la pandémie. Souvent, ça vient quand il y a beaucoup d'inconnus. On sait que cette maladie est pas très bien connue. On apprend tous les jours, évidemment, mais il y a encore une fois, c'est la peur qui s'ajoute quand il y a ces incertitudes-là. Mais la stigmatisation des personnes qui sont affectées est la dernière chose qu'il faut actuellement. C'est plutôt la solidarité, c'est la compréhension, l'entraide entre les personnes qui vont beaucoup nous aider à s'en sortir. Et il faut se rappeler qu'on peut tous être affectés par cette maladie. Ce n'est pas une maladie qui affecte un certain secteur de la population. Or, ça peut affecter tout le monde. Donc, c'est important de se rappeler de ça.
Oui, et le fait aussi que les gens sont en confinement, des fois provoque plus d'abus et donc plus de problèmes de santé mentale, n'est-ce pas?
Tout à fait. Et puis, il y a peut-être autre chose à ajouter aussi, et ça, c'est en partie du fait que beaucoup d'entre nous sont confinés à la maison. Il y a cette surexposition aux médias avec la télévision continue, nos smartphones qui sont sans arrêt en train de buzzer, beaucoup de rumeurs qui courent et tout cela, ça n'aide pas ce sentiment de peur et incertitude. Et ce que nous recommandons, c'est que les gens essayent d'imiter leur exposition à tout ceci, éventuellement en passant en regardant les informations une fois, deux fois par jour et ne pas être constamment dessus parce que ça peut ajouter au stress généré par cette situation.
Pourquoi la question de la santé mentale doit être adressée de toute urgence? Pourquoi c'est important d'en parler, surtout en ce moment?
Ben, c'est très important d'en parler, surtout à ce moment, des besoins de santé, d'investissement dans la santé mentale, surtout. Et on est très content de faire partie, d'aider avec ce rapport des Nations Unies qui sort aujourd'hui sur ce sujet. Depuis des années, il n'y a pas été suffisamment d'investissement dans ce domaine. On sait que le nombre de personnes affectées est énorme. On sait aussi qu'il n'y a que 2% des budgets de santé par les gouvernements en moyenne à travers le monde, que 2% qui va à la santé mentale, ce qui est très peu par rapport à le nombre de personnes et la gravité de certaines de ces maladies. Donc, actuellement, avec la situation dans laquelle on se trouve, on voit déjà une augmentation des personnes affectées qui risquent de s'aggraver encore plus pendant la durée de la pandémie si les investissements suffisants ne sont pas pris maintenant.
Oui, parce que la santé mentale a toujours été un peu négligée, n'est-ce pas, depuis toujours. Vous parliez justement de seulement 2%. Donc, vous avez d'autres statistiques de justement comme quoi la santé mentale est vraiment négligée, n'est-ce pas, dans tout ce qui est santé en général?
Mais quand on regarde les statistiques sur les personnes affectées, juste pour la dépression, une des maladies les plus courantes de la santé mentale, il y a 264 millions de personnes affectées dans le monde. Suicide, une personne meurt du suicide tous les 40 secondes. Et quand on regarde les situations d'urgence humanitaire dans des pays en conflit ou qui ont eu des désastres naturels, on estime que une personne sur cinq est affectée par une maladie de santé mentale. Donc, le besoin est bel et bien là. Et on dit cela, il faut aussi dire que la situation n'est pas tout noire. On a vu quand même des changements qui sont venus à travers les années. Dans certains pays, la stigmatisation se réduit. On voit qu'il y a de plus en plus d'ouverture à parler des problèmes de santé mentale. Ça, c'est déjà une bonne chose. L'OMS en lui-même, pendant des années, a formé des généralistes à travers le monde dans des pays où il y a très peu de psychiatres, pour qu'ils puissent diagnostiquer et traiter les problèmes les plus courants de la santé mentale. Donc, tout n'est pas noir, mais on est loin d'être à la hauteur des besoins.
Et justement, en parlant de points positifs, il y a, je pense, de nombreuses initiatives qui ont été prises partout dans le monde pour renforcer le soutien psychosocial pendant cette crise. Donc, avez-vous des exemples, justement?
Heureusement qu'on a vu des choses positives ces derniers mois. À Madrid, on a vu quand il y avait beaucoup de lits qui étaient normalement réservés pour des personnes qui souffraient de problèmes de santé mentale, qui ont été transférés pour des patients COVID. On a vu qu'il y avait des places qui ont été trouvées dans des cliniques privées. Ça, c'est le genre de choses qui aident les personnes qui ont vraiment besoin de soins à pouvoir continuer le soin. On a vu aussi dans pas mal de pays, je cite que toi, la Nouvelle-Zélande, le Népal, l'Égypte, ils ont augmenté la capacité de ligne téléphonique pour écouter les gens qui ont besoin d'un soutien psychologique. Ça, c'est que deux exemples, mais on les voit. Donc, il faut s'appuyer sur les exemples et les utiliser dans d'autres pays à travers le monde pendant la durée de cette pandémie.
Oui, cette pandémie qui va sûrement durer un certain temps. Les Nations Unies et donc de nombreuses agences se mobilisent sur le sujet et l'OMS recommande trois actions. Donc, quelles sont-elles justement?
Comme vous dites, hein, l'OMS, avec d'autres agences dans la famille des Nations Unies, agissent sur ce sujet. Les trois recommandations principales qu'on recommande dans le rapport qui est sorti aujourd'hui. Premièrement, il faut absolument que la santé mentale soit prise en compte dans la réponse COVID tout entière, pas seulement la santé, aussi d'autres secteurs, l'éducation, l'emploi, par exemple. Deuxièmement, que toutes les personnes qui ont besoin de soins pour le santé mentale y ont accès. Donc, ça, c'est essentiel. Et la troisième chose, c'est essayer d'utiliser cette occasion pour construire des systèmes de santé mentale qui sont bons pour l'avenir, c'est-à-dire qui sont accessibles à tous, qui sont basés dans la communauté. On essaye de plus en plus de devenir des grandes institutions psychiatriques du passé à un traitement qui est basé dans la communauté. Et troisièmement, que des traitements, des soins sont abordables pour tous. Donc, ça, c'est les trois recommandations du rapport qui est sorti des Nations Unies aujourd'hui.
Et vous parlez que la santé et les traitements pour la santé mentale soient abordables à tous. Je pense que c'est un élément important. Et que faut-il faire justement pour arriver à que tout le monde ait accès à ces soins pour la santé mentale?
Il y a de l'action qui doivent être pris par tous les secteurs. On en a parlé de pas mal des choses qui doivent être faites. Il faut continuer avec la déstigmatisation de ces maladies dans la société. Il y a déjà des choses qui ont été faites. Il faut aller plus loin. Il faut que les gouvernements donnent plus de leur budget de santé pour la santé mentale. Il faut aussi qu'il y ait une possibilité dans d'autres secteurs pour les gens d'avoir de l'aide pour le santé mentale. Dans les écoles, par exemple, quand les enfants sont assez jeunes, qu'on peut parler des problèmes émotifs qu'ils peuvent avoir, que ce n'est pas quelque chose qui est caché, que les gens ont plus l'habitude de parler de leurs problèmes ou inquiétudes émotionnelles. Et il y a la question des traitements aussi, hein, les questions de traitements pharmacologiques et les traitements par les thérapies parlant. Ça aussi, il faut qu'ils soient accessibles à travers le monde. Ce n'est pas encore le cas, malgré le fait qu'on a des traitements qui marchent très bien pour soigner ce genre de maladie.
Est-ce qu'une couverture sanitaire universelle pourrait résoudre aussi un peu ce problème?
Tout à fait, tout
Oui.
à fait. Les problèmes de santé mentale doivent faire partie de la couverture de santé universelle. Ça, c'est évident.
Alison Brunier, merci beaucoup pour cette interview.
Merci pour l'opportunité à Florence et pour tous ceux qui nous écoutent. Essayez de rester en bonne santé physique et émotionnelle et prenez bien soin de vous.
Oui, tout à fait, tout à fait. À vous aussi, Alison Brunier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Florence.